Donc maintenant, ça va être l'intervention de Nathalie Arthaud.
Bonsoir à tous. Je suis donc très contente d'être avec vous ce soir. C'est pas la première fois que je viens là, mais c'est la première fois que j'ai le temps vraiment de discuter avec tout le monde. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, je sais que certains ont faim, ont soif, sont très impatients. Je ne parlerai donc pas très longtemps, mais j'ai quand même quelques mots à vous dire sur la situation que nous vivons. Et je commencerai pour être dans la tradition avec les travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Bonsoir. Cette semaine, le gouvernement a annoncé un plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Une mesure, l'augmentation du RSA. Le RSA sera augmenté de 10% sur 5 ans, c'est-à-dire de 2% par an. Ce qui veut dire que pour un allocataire du RSA qui est seul et qui touche 475 euros par mois, ça lui fera 12 euros de plus. C'est vraiment une aumône. Et en plus, pour toucher cette augmentation, il va falloir qu'il attende encore septembre 2013. Autant dire que ce n'est pas avec ça que la pauvreté reculera. Sur les 8 600 000 pauvres qu'il y a aujourd'hui dans le pays, il y a bien sûr les travailleurs qui sont plongés depuis déjà de longues années dans le chômage. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui ne trouvent en guise de travail que quelques heures par-ci et quelques heures par-là. Et puis il y a aussi beaucoup de travailleurs, beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'employés qui sont payés autour du SMIC. Hein, parce que le SMIC maintenant, eh bien il est en dessous du minimum qu'il faut pour vivre dignement. Et ce SMIC, on vient de l'apprendre, ça a été annoncé hier, eh bien lui, il n'augmentera pas. Alors qu'on nous annonce des hausses des tarifs des transports au 1er janvier, des hausses du prix du gaz, de la redevance télévision, alors les tarifs de l'eau, je sais qu'ici c'est un gros problème, hein, ne font qu'augmenter, alors que les indices des prix alimentaires dans les grandes surfaces ont augmenté le mois dernier, eh bien le gouvernement affirme qu'il n'y a pas d'inflation, que l'inflation est en baisse, et donc il n'y aura pas d'augmentation du SMIC. Ce gouvernement serait prêt à affirmer que la terre est plate si cela pouvait servir les patrons. On a un gouvernement qui se dit socialiste, mais il est aux petits soins avec le patronat et il laisse les travailleurs dans la galère. Pour lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre le chômage. Les femmes et les hommes qui sont au RSA ne veulent pas l'aumône, ils veulent un boulot. Et un boulot qui leur permettra de vivre dignement. Et pour lutter contre la pauvreté, eh bien oui, il faut combattre les petits boulots et il faut lutter contre les bas salaires. Toute chose que ce gouvernement à majorité socialiste n'est pas prêt à faire, n'est pas décidé à faire, parce qu'il ne veut pas gêner le patronat, parce qu'il ne veut rien lui imposer. Il y a maintenant plus de 3 millions de chômeurs dans le pays. Mois après mois, on constate que la catastrophe, que la catastrophe s'accélère. 45 000 chômeurs de plus en septembre, 45 000 chômeurs de plus en octobre. Pendant toute la campagne électorale, j'ai dit qu'il y avait 1 000 chômeurs de plus par mois. Et bien maintenant, ce n'est pas 1 000 de plus, c'est 1 500 de plus chaque jour. Et comment pourrait-il en être autrement quand on voit que toutes les entreprises, tous les grands groupes licencient? Je ne vais pas vous faire la liste, mais on a tous en tête Arcelor, Peugeot, Citroën, SFR, Candia, Electrolux, Petroplus, enfin bon, vous pourriez tous en rajouter Prestalis, que j'oublie, mais je sais qu'il licencie aussi beaucoup. Donc en réalité, Sanofi, mais toutes les grandes banques, les compagnies d'assurance aussi, il y a des suppressions d'emplois absolument de partout. La liste, elle est infinie. Et que fait le gouvernement face à ce fléau? Eh bien, il fait rien. Hein, le gouvernement laisse faire. Et le gouvernement nous explique même que c'est comme ça, qu'on ne peut rien y faire. Il a d'ailleurs programmé en quelque sorte son impuissance, puisqu'il a d'ores et déjà dit que la courbe du chômage ne s'inverserait pas avant fin 2013. Eh bien, c'est une façon de programmer le chômage. Mais cette impuissance du gouvernement, eh bien, elle est voulue, elle est choisie. Elle est choisie parce que le gouvernement ne veut pas contraindre le patronat. Il ne veut l'obliger à rien, il ne veut rien lui interdire. Mais un gouvernement qui serait du côté des travailleurs, eh bien, il interdirait tout simplement les licenciements. Dans cette période de crise, il imposerait au patronat de répartir le travail sur l'ensemble des salariés, en maintenant bien sûr à 100% les salaires. Hein, au lieu que ce soit les salariés, avec leur vie, qui soient les variables d'ajustement, eh bien ce gouvernement, il imposerait que ce soit les profits, que ce soit les dividendes des actionnaires qui servent de variables d'ajustement. Parce que toutes ces entreprises qui licencient, pour la plupart, ce sont des grandes entreprises. Elles sont liées à des grands groupes qui ont des réserves, qui ont de quoi voir venir, qui sont assis parfois sur des montagnes de cash. Il y en a même qui font des bénéfices. Je pense à Sanofi. Ils licencient, mais ils font 6 milliards de bénéfices. Je pense à SFR, je pense à Alcatel. Ils licencient, mais ils font des bénéfices. Mais y compris les grands groupes qui n'en font pas ou en font moins et qui disent avoir des difficultés. Même ces entreprises-là, elles ont des réserves. Et puis ces entreprises, quand elles marchaient bien, elles en ont accumulé des profits. Elles en ont versé des dividendes, des dizaines de millions de dividendes à leurs actionnaires. Eh bien, qu'elles prennent sur cet argent, qu'elles prennent sur ces profits. Alors un gouvernement qui serait du côté des travailleurs, eh bien oui, il imposerait qu'on prenne sur ses fortunes et sur tout cet argent pour garantir les emplois et pour garantir les salaires. Ce n'est pas cela que fera le gouvernement. Il ne fera pas ça parce qu'il est à plat ventre devant la bourgeoisie. Tout le monde l'a vu ces dernières semaines. On a vu comment le gouvernement s'était couché devant Mittal. Mais ce n'était pas une première. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé face aux entrepreneurs de l'Internet, la fameuse fronde des pigeons. Alors ce n'était pas le grand capital, c'était des entrepreneurs qui quand même brassaient des dizaines, des centaines de millions. Eh bien, face à leur opposition, le gouvernement a reculé en 4 jours et il a laissé tomber son projet de les taxer autant que les salariés. Il a reculé. Puis on a vu aussi le gouvernement reculer face au grand patronat au moment du rapport Gallois. Il a reculé, et ô combien, en mettant 20 milliards sur la table. Alors qu'il recule face à Mittal, ce n'était pas vraiment une surprise. Mais comme le gouvernement avait brandi la menace de nationalisation, c'est vrai que cette reculade, elle a vraiment sonné comme une capitulation honteuse. Il faut dire que la nationalisation telle que Montebourg la concevait était quand même pas très méchante vis-à-vis de Mittal. Parce que Montebourg s'engageait à payer, à rembourser Mittal de ses hauts fourneaux. C'était sûrement pas une confiscation. C'était pas bien méchant. Eh bien, même ça, le gouvernement socialiste n'a pas voulu le faire. Le gouvernement, en fait, a tout cédé devant Mittal. Et il a menti pour justifier cette capitulation. Parce qu'il n'y a rien dans l'accord signé entre le gouvernement et Mittal. Les hauts fourneaux de Florange vont fermer. Les 629 emplois qu'il y avait sur les hauts fourneaux vont disparaître. Le gouvernement nous dit qu'il n'y aura pas de licenciement. C'est vrai que ces 629 salariés vont être soit reclassés, soit mis en retraite. C'est vrai. Mais ils prennent la place d'intérimaires, de dizaines, de centaines d'intérimaires sur Florange. Donc, c'est les intérimaires qui se retrouvent licenciés. Et qu'en est-il des sous-traitants qui se retrouvent sans activité, qui sont obligés de licencier leurs salariés? De tout cela, on ne parle jamais. C'est comme s'il n'existait pas. Mais là encore, ce sont des licenciements. Quant à l'engagement de Mittal d'investir 180 millions d'euros, là, c'était vraiment de l'enfumage. Il n'en a en fait jamais été question. Sur ces 180 millions que Hérault a vraiment étalé en disant « Mais si, regardez, Mittal s'engage, il apporte de l'argent », en réalité, il n'y aura que 53 millions qui seront consacrés aux investissements. Le reste, c'est pour la maintenance habituelle. 53 millions sur 5 ans, ça veut dire 10 millions par an. Eh bien, c'est pas lourd. Alors, c'est déjà pas lourd, mais quand on sait qu'en plus, Mittal va toucher au titre du crédit compétitivité, la nouvelle mesure que le gouvernement a prise, à peu près 10 millions par an, eh bien on comprend qu'au bout du compte, Mittal ne va pas sortir un poche. En réalité, dans cet accord, c'est l'État qui s'est engagé à mettre de l'argent sur la table. C'est l'État qui s'est engagé à investir. Et Vital, lui, s'est engagé à rien du tout. Avec la découverte, cette semaine, d'un document gardé secret par Mittal qui prouve que le site de Florange est tout à fait rentable, eh bien on a une fois de plus pris le PDG d'ArcelorMittal en flagrant délit de mensonge. Mais je tiens quand même à dire que Mittal n'est pas le seul menteur. Hein. Cette semaine, le PDG de Peugeot Citroën a aussi dû avouer qu'il n'allait pas supprimer 8000 emplois, mais qu'en réalité, il en supprimait plus de 11000 emplois. Alors vous voyez, mentir, ce n'est pas une spécialité de Mittal, c'est pas une spécialité indienne, c'est une spécialité des capitalistes, des patrons. Pour ces gens-là, diriger, exploiter les travailleurs, ça va avec le mensonge. Et je voudrais dire que ces mensonges, eh bien le gouvernement en est complètement complice, parce qu'il était au courant, le gouvernement, de tout ça. Alors c'est la preuve, s'il en fallait encore, que tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, sont à plat ventre, sont vendus corps et âme à la bourgeoisie, et pas seulement à Mittal, mais aussi à Peugeot, à Bettencourt, à Arnault, à Michelin. Le gouvernement, à majorité socialiste, ne se contente pas de se plier aux quatre volontés du patronat. Il reprend sa politique, mot pour mot. Regardez ce qui s'est passé sur la compétitivité. Alors que la compétitivité a toujours fait partie du chantage patronal pour baisser les salaires, pour imposer des sacrifices aux travailleurs, le gouvernement en a fait son nouveau cheval de bataille. Et il a décidé, suite au rapport Gallois, de baisser de 6% le fameux coût du travail en versant 20 milliards de crédits d'impôt aux entreprises. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce que Hollande avait dit pendant sa campagne électorale sur la compétitivité et sur justement la TVA sociale que Sarkozy voulait lui imposer. Je cite Hollande, écoutez bien. « Je considère la hausse de la TVA inopportune, injuste, infondée et improvisée. La compétitivité n'est qu'un faux prétexte. Ce n'est pas en baissant les cotisations patronales de quelques points qu'il y aura quelques progrès que ce soit dans notre commerce extérieur. » Eh bien, le reniement ne pouvait pas être plus grossier. Parce que maintenant qu'il est au pouvoir, eh bien c'est lui qui l'impose, cette TVA injuste, infondée, inappropriée. Alors oui, la politique de Hollande est dans la continuité de celle de Sarkozy. Et c'est une politique qui est anti-ouvrière. Une politique anti-ouvrière, parce que c'est nous, les travailleurs, les plus pauvres, les smicards, qui allons payer ce cadeau de 20 milliards. Et on va le payer de deux façons différentes. D'abord, parce qu'il va y avoir effectivement l'augmentation de la TVA, qu'on payera tous, y compris jusqu'aux plus pauvres, y compris jusqu'au SDF. Quand il va acheter sa baguette de pain, il va la payer, cette TVA. Et puis on va la payer aussi parce qu'il va y avoir les restrictions sur les dépenses publiques, parce qu'on va nous dire qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, qu'il n'y a plus d'argent pour les équipements publics, qu'il n'y a plus d'argent pour refaire les routes, plus d'argent pour les transports, plus d'argent pour la santé, pour l'éducation. C'est quand même 60 milliards d'économies sur les services publics que le gouvernement veut faire sur les 5 années. Alors oui, tout ça, c'est de l'argent qui va manquer et qui nous manquera au quotidien. Autant dire qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, si ce n'est des coûts pour les travailleurs. Dans la guerre de classe qui oppose les travailleurs au patronat, le gouvernement est dans le camp du patronat. Cela ne signifie pas que la classe ouvrière est impuissante pour s'opposer au coût du patronat. Cela veut simplement dire que le monde du travail ne doit compter que sur lui-même pour se défendre, pour défendre son emploi, pour défendre son salaire. La force du patronat aujourd'hui, elle vient de ce que les travailleurs ne se battent pas. Alors oui, il faut renouer avec les luttes collectives ample, massive, débordante, renouée avec le meilleur des traditions du mouvement ouvrier, celles qui se sont exprimées dans les manifestations et les grèves générales de mai-juin 36 ou de mai 68. Et nous sommes convaincus que tôt ou tard, les travailleurs retrouveront ce chemin des luttes. Mais le plus grave pour l'avenir est surtout qu'il n'existe pas de parti qui représente clairement et jusqu'au bout les intérêts du monde du travail. Ce parti, il faut le construire. Il faut construire un parti qui défende la perspective d'une société communiste. On voit bien que le parti qui porte aujourd'hui l'étiquette socialiste n'est plus qu'un parti bourgeois, comme les autres. Quant aux partis comme celui de Mélenchon, comme le parti communiste, qui prétendent représenter une alternative par rapport au parti socialiste, ils défendent des politiques guère différentes, parce qu'ils se placent tous dans le cadre de cette économie capitaliste, en prétendant savoir mieux la gérer que les autres. Ils ont abandonné la perspective de combattre cette organisation économique pour la renverser. Si Mélenchon, le porte-voix du Front de Gauche, critique aujourd'hui la politique de héros, c'est pour prendre sa place. Mais ce n'est pas pour renverser le système capitaliste, c'est pour le servir. Alors oui, il manque un parti qui représente les intérêts politiques de la classe ouvrière et qui ne représente que ces intérêts-là. Ce parti doit avoir clairement pour objectif la prise de pouvoir par la classe ouvrière elle-même, par des organisations démocratiques construites et contrôlées par elle. Ce parti doit œuvrer pour l'expropriation de la bourgeoisie et pour l'avènement d'une société sans exploitation, sans classe, pour une société communiste. N'en déplaise au Parti socialiste, qui est au gouvernement, et aux dirigeants du Parti communiste, qui n'imaginent plus autre chose que cette société qui est dominée par le grand capital, nous continuons, nous, à penser que le pouvoir du grand capital est prédateur et qu'il n'y a pas d'autre alternative que le pouvoir de la classe ouvrière. Nous continuons de défendre la perspective de la collectivisation de l'économie, de la nationalisation, mais de la nationalisation dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire de l'expropriation des actionnaires sans indemnité ni rachat et la gestion collective des entreprises dans l'intérêt de la population. Nous sommes convaincus que les travailleurs qui font tourner l'économie, qui font tout dans la société, sont capables aussi de la diriger. Et nous sommes convaincus qu'ils la dirigeraient mille fois mieux que ne le font aujourd'hui les capitalistes, parce que eux, ils ne seraient pas aveuglés par le profit et par la rentabilité, mais ils auraient le souci de l'intérêt collectif. Alors, vive la lutte des travailleurs, vive le communisme.
Je vous propose que nous chantions le chant des travailleurs. Je prends pas la guitare, hein, parce que je l'ai pas répété. Hein. Debout, les damnés de la terre.